FM 93. Ségal, le midi, avec Myriam Ségal et Jeff Blanchette. FM 93.
Ici Myriam Ségal. Desjardins distribue ses ristournes, avantage aux cigales contre les fourmis. Le nouveau buzz de l'aéroport entre en fonction, est-ce le début d'un temps nouveau? Êtes-vous prêt à passer un polygraphe? Devant votre conjoint ou devant votre patron? Et merci, merci et encore merci.
Ségal, le midi, avec Myriam Ségal et Jeff Blanchette.
FM 93.
Jeff, bonjour.
Bonjour, Myriam.
Le merci, merci, merci arrivait parce que nous avons eu aujourd'hui notre bulletin, c'est-à-dire les résultats des codes d'écoute numériques.
Oui.
Et pour ce qui est notamment de l'émission de José qui nous précède, José le Doc, et la nôtre, on est très, 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 très contents. On a des augmentations qui sont sensibles.
Exact. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous choisir entre 11h et 14h au FM 93, notamment. Donc, on espère toujours que le gâteau va lever quand on forme un nouveau duo. Moi, ouais. J'ai eu énormément de plaisir à travailler avec toi dans les derniers mois. Là, on espère que vous ayez autant de plaisir à nous écouter, puis ça donne que vous êtes plus nombreux. Donc, une journée comme celle-là, on est toujours fébrile. Moi, je le suis encore. Toi, Myriam, t'en as vu d'autres BBM, là, des numéristes.
Oh, t'es complètement blasé, moi.
Ça te passe 6 pieds par-dessus la tête. Mais moi, quand les codes d'écoute sortent, je suis tout le temps nerveux. Puis comme artisan de radio, mais aussi comme tripeux de radio, j'aime voir les tendances. J'aime voir qui performe dans le marché, où ça monte, où ça baisse. La radio musicale, la radio parlée. Donc, j'aime décortiquer ça. J'ai pas pris le temps de faire ça encore ce matin parce qu'on devait vous préparer l'émission qu'on vous présente aujourd'hui. Mais quand j'ai regardé nos chiffres à nous, j'étais particulièrement content.
Ouais, on a une augmentation. C'est garde d'autant plus que on a commencé un peu dans la tourmente là. Luc Lavoie était le co-animateur à temps plein. Il est allé faire un peu plus de temps à Montréal, un peu moins avec nous autres. Toi, t'as remplacé au pied levé.
Ouais, j'arrivais du retour. Nouveau format d'émission. On se connaissait pour se croiser dans les corridors. J'ai fait un peu de recherche pour toi, mais d'arriver en ondes 3 heures par jour, je savais pas qu'est-ce que ça allait donner. Puis finalement, vous avez l'air d'aimer ça.
Mais tu sais, Jeff, il y a quelque chose qu'il faut reconnaître quand on a de bons résultats là. C'est parce que la maison est bien bâtie.
Clairement.
OK? Et toi et moi, on est dans le fond le parement. On est la brique décorative. Mm-hmm. Le vrai solage, là, c'est un paquet de gens que les gens n'entendent pas à la radio. Des François, des France, Isabelle, Youssef, Lucie, des Pierre-Luc, Martin qui essaye de réparer la panne informatique qu'on a actuellement, là. Bon, ces gens-là, je veux pas toutes les nommer, là, mais ces gens-là, c'est un espèce de ciment sur lequel on peut se reposer.
Oui.
Puis ils s'occupent d'un paquet d'affaires qui nous permettent, nous, d'être libres en ondes. Je les remercie.
Moi aussi.
Bon. OK. On a-tu fini de se flatter à bedaine?
Ce soir, on va aller prendre un verre à votre santé. Ça, je m'engage formellement à le faire. La première bière, je vais vous la lever bien haut. Puis je vous partagerai ça sur Twitter et Facebook pour vous remercier officiellement.
Je dois vous dire que simultanément, quelques minutes avant d'entrer en onde, sur la fin de l'émission de José et le Doc, là, on a eu une panne informatique qui semble affecter beaucoup nos communications. Je comprends que avec nos téléphones cellulaires, on va pouvoir recevoir vos textos quand
c'est
même.
C'est ça. Là, je vous lis sur le 25226. Il n'y a aucun problème. Les courriels rentrent également, mais j'ai pris la connexion Internet de mon forfait cellulaire. Et semble-t-il que la diffusion en ligne actuellement, c'est plutôt laborieux. Donc, on est en train de régler ça. Sur FM, il n'y a aucun problème, là, au 93.3. Mais sur Internet, ça fonctionne pas trop. Nos meilleurs hommes sont là-dessus et on va vous avertir dès que ce sera revenu. Le mauvais temps est là, mais je sais pas qu'est-ce qui peut causer une panne comme celle-là. On va espérer qu'elle se résorbe rapidement.
De toute façon, là, quand un technicien t'explique une panne, la seule chose que tu comprends, c'est qu'elle finit. Puis tu sais pas pourquoi elle a commencé.
C'est ça. Elle était pas supposée. Ça, c'est tout le temps le premier élément.
C'est pas supposé.
Puis après, on se met sur le mode solution, puis on trouve habituellement. Donc, c'est ça. Martin, Benoît et compagnie, Pierre-Luc sont là-dessus présentement. On va vous régler ça. Ce sera pas trop long.
OK. Hier, j'étais absente parce que je suis allée donner une conférence au Saguenay. Je suis retournée dans mon Saguenay.
Là, qu'es-tu calé? Non, c'est vrai, tu m'as dit que oui l'autre jour. 19 mai,
c'est 19 fait. Mai. Okay. OK. Mais honnêtement, dans le parc, il y a encore des plaques de neige à certains endroits, là.
C'est déprimant, hein?
Ben, oui, pis...
À l'étape, il y a 8 pieds de neige à côté du Cocroti, tu sais.
Non, quand même pas.
Okay, okay. Mais, tu me rassures.
Non, mais tu sais, il reste encore des traces, là, mais le printemps est en train de prendre ses droits. Et je suis allé faire une conférence pour l'Association des communicateurs municipaux.
Donc,
j'ai
c'est
beaucoup
des,
de plaisir.
Des conseillers, des
Ce sont les relationnistes de ville.
OK.
Tu sais, les gens qui te répondent au téléphone quand tu dis « Hey, ça coûte combien de nettoyer une entrée avec une hausse, là?
» Ça, c'est le rendez-vous annuel de Myriam Segal. Au printemps, ça arrive tout le temps. « Ouais, on est rendu à combien le mètre cube? » Mais
La réponse, c'est que ça coûte 3 cents. On peut-tu sacrer on peut-tu sacrer patience aux citoyens?
Ça te plaît, bonne mort,
une fois par année, au printemps. Une fois pour 3 cents, ils vous donnent 3 000 piastres de taxes. Vous pouvez-tu le laisser gaspiller 3 cents d'eau?
Fait que t'es abrassé un peu, les relationnistes. Bon, tu leur as dit notre façon de penser, parce que des fois, ils sont hyper efficaces, puis ils nous donnent l'information qu'on veut, puis des fois, ils nous font skier un peu.
Ouais, ben je leur ai expliqué comment nous, on travaille, puis je leur ai expliqué qu'il faut nourrir la bête, et nourrir la bête, c'est nous donner l'info.
Si on n'a pas le temps d'avoir ça dans 3 semaines, si on vous le demande maintenant, on le veut pour hier. On est comme ça, hein? On n'est pas très indulgent là-dessus. Oh, je veux mon information! Mais ça vient pas toujours aussi vite qu'on voudrait.
C'était sympathique. Et tu vois, dans la conférence, j'ai donné un exemple de relationniste qui ne répond pas aux questions. Parce qu'il me disait, voyons donc, on répond toujours. Puis j'ai donné un exemple.
T'avais des exemples de ça?
Ben oui, mais pas dans leur domaine, dans un domaine autre.
OK, pour pas les froisser non plus, là. Il était quand même une quarantaine
devant toi. Non, mais l'exemple qui m'est arrivé en tête quand ils m'ont posé la question, c'est celui-là, parce qu'il était récent.
Oui.
C'est la garantie de construction résidentielle, l'organisme qui a été formé pour dédommager les gens qui ont affaire à un entrepreneur qui finit pas l'ouvrage ou qui le fait mal. Là. Au départ, on a fait une entrevue avec eux autres qui était plutôt sympathique parce qu'ils vont rendre public les codes des entrepreneurs. Je trouvais ça bien. Puis, j'ai fini en disant, pourvu qu'on soit pas en train de créer une bureaucratie sous de vertueux prétextes.
Je disais dans les détails. Hein.
Et par la suite, on a eu un appel de quelqu'un qui dit, écoutez, c'est épouvantable, ça fait plus d'un an qu'on niaise avec une maison pas finie puis qu'on n'arrive pas à avoir des réponses de ces gens-là, etc. Mm-hmm. Et je donne cet exemple-là parce qu'on a tenté de connaître des relationnistes de cet organisme-là quels étaient leurs délais de traitement. Puis comment ça se fait que dans ce dossier-là, ça n'a pas l'air à avancer. Ça a l'air d'être une grosse histoire dans la région de Granby, d'ailleurs, tout un quartier résidentiel en chantier.
C'est un entrepreneur
qui a été abandonné par un entrepreneur.
Okay.
Et à la suite de cela, j'ai deux personnes qui sont venues me voir en disant « Continue à fouiller ce dossier-là. C'est épouvantable ce qu'ils sont en train de faire.
» Ils les connaissaient.
Il y a comme ça des dossiers sur lesquels on tombe un peu par hasard. Puis tu te dis « OK, voici l'enfer pavé de bonnes intentions. Mm-hmm. Un organisme qui va dédommager les gens, qui va leur donner les cotes des entrepreneurs. Puis là, quand tu grattes le bobo, tu t'aperçois que « Oups !» L'organisme, il fonctionne pas si bien que ça.
Ouais. Il y a un projet de loi qui a été déposé dans les dernières minutes, Myriam. Ça va vous intéresser, je pense, le projet de loi 26. Ça concerne le réseau structurant de transport de la Ville de Québec. Oh! Le provincial vient de déposer un projet de loi. Ce que ça dit, c'est que ça donne compétence exclusive à la Ville de Québec pour réaliser le projet.
Donc, c'est pas le RTC.
Et ça vise à permettre à la Ville de Québec de procéder à des expropriations pour réaliser son projet de tramway.
Parce que je pense que les villes ont des limites dans leur droit à l'expropriation. Ils peuvent pas utiliser les terrains qu'ils exproprient pour n'importe quoi. Mm-hmm. Alors, j'ai l'impression que cette loi-là vient pallier ça, notamment.
Oui, et l'autre aspect du projet de loi, c'est que lorsqu'on va acquérir des véhicules de transport en commun, la Ville de Québec doit exiger du fournisseur que 25% de la valeur du marché soit confiée en sous-traitance au Canada. Donc, c'est une espèce de clause de produit local.
Mais ça, c'est uniquement pour l'achat de véhicules.
C'est ce que je comprends. On a des premières informations un peu...
Autrement dit, la Ville de Québec ne pourra pas dire à la compagnie Vanhoole, avec laquelle elle semble être tombée en amour en Belgique,
oui.
Tu vas me fournir tout.
C'est ce que je comprends là-dedans.
Vanhoole va être obligé de donner des sous-contrats, par exemple, à l'apocatière.
C'est ça, pour faire travailler du monde au Canada, puis au Québec, évidemment. Là, on doit viser ça du côté de l'Assemblée.
Je suis pas sûr que les textos fonctionnent.
Les textos fonctionnent et on nous dit que la diffusion sur l'FM93.com ne fonctionne pas. Donc, okay. On n'a pas de courriel, on n'a pas d'écoute en ligne. C'est vraiment à l'ancienne, 93.3, 1025-226 fonctionne pour nous informer.
OK, parfait. Ouais. Ça fait que gardez quand même un œil sur ce qui se passe. Mais donc, la ville a le feu vert et elle va être obligée, si elle achète des véhicules, mais pourtant, le RTC vient d'acheter un paquet de véhicules à Vanhoole.
Il y en a quoi, 90, les
minibus? Les minibus, là. Mais ça rentre pas dans le nouveau déploiement, parce qu'on parle toujours du tramway, là. Mais ce qui nous est proposé, c'est un réseau structurant de transport en commun. Moi, bien plus que le tramway qui va, dans le fond, faire la job que font très bien actuellement les 800-801, là. Mm-hmm. Bien plus que le tramway, c'est le reste qui m'intéresse dans le projet.
Mais tu comprends que là, c'est de la façon que je l'interprète. C'est lors de l'acquisition de véhicules de transport en commun. Donc, ce serait pas seulement le tramway qui sillonne dans les rues, dans les quartiers centraux. Ce serait aussi pour les autobus.
Les trambus, les fameux trambus,
exact,
biarticulés qu'on veut commander à la compagnie Van Hool.
C'est ça. Donc, les 64 midibus qu'on a déjà, comme le projet de loi est arrivé après, ça compte pas. Mais désormais, de la façon que je l'interprète, va falloir qu'il y ait 25 % de la valeur du marché qui soit confiée à des sous-traitants ici au pays.
OK. Mais c'est uniquement sur l'achat de véhicules, pas sur la construction des rails, pas sur les travaux d'infrastructure, pas...
C'est pas l'information que je détiens actuellement. On ira voir le projet de loi 26 et on pourra vous revenir là-dessus quand on aura lu le texte intégral.
OK, les chutes Montmorency, vous en avez parlé un peu hier,
j'imagine? Ça a fait tout un tollé hier, ce changement de tarification. Mmh. Il y a une pétition qui a été mise en ligne sur change.org, puis il y a eu beaucoup de noms, beaucoup de personnes qui ont signé. On est rendu à près de 4800 signatures.
Les gens qui sont fâchés parce que l'accès aux chutes, si tu n'arrivais pas en voiture, était gratuit.
C'est ça.
Mais si tu arrivais en voiture, c'était 12,5$ que tu sois là 5 minutes ou que tu sois là 2 heures.
Exactement. Donc là, par exemple, les joggeurs pouvaient avoir accès aux escaliers puis au site des chutes s'ils arrivaient à pied en espace. Mais si tu arrivais en voiture, là, tu devais payer. Désormais, ça va être un montant par tête qui accède au site et le stationnement va être gratuit. Quand on a commencé l'émission hier, on n'avait pas les tarifs. Okay. Maintenant, on sait combien ça va coûter par adulte. C'est 6,25 taxes incluses.
Pour les Québécois.
Pour les Québécois.
8 $ si vous êtes un touriste.
C'est ça. Et il y a un abonnement annuel aussi si vous êtes de la périphérie, mais pas du secteur, du district Chute-Montmorency-Seigneurial. Pour eux, c'est gratuit. Pour les gens de Bois-Châtel, c'est gratuit. Mais si vous y allez régulièrement pour 12,50, qui est le prix d'un stationnement actuellement, une fois, mm-hmm, vous avez votre abonnement annuel.
Mais moi, je trouve que c'est pas une bonne formule.
Non?
Non. Le problème que j'ai eu plusieurs fois, moi, je suis allé aux Chutes-Montmorency une couple de fois, OK? Puis, je veux juste montrer la chute, par exemple, avec ma grand-mère, à un moment donné. Je veux juste y montrer la chute de loin, tu sais. Uh-huh. On veut pas faire les sentiers, on veut juste... Rien que pour rentrer, ça me coûtait 12,5$.
Ouais. Là, tu parles du stationnement en bas, mettons.
Stationnement en bas.
OK.
Ouais. C'est par là que j'accédais, moi.
Ouais. Bon.
12,5$ pour y montrer la chute de loin, vous êtes tombé sur la tête. Pourquoi ils n'ont pas une tarification qui est une demi-heure, c'est 2 $, deux demi-heures, c'est 4 $, tu sais, une tarification qui est raisonnable et qui dépend du temps que tu y passes.
Ah, mais ça, par contre, ça me ferait un peu souer, là. T'arrives à 1 heure, tu passes 1 h 15 dans ton pique-nique, là, tu dis, ish, dans 15 minutes, je vais être obligé de payer 5 $ de plus. Là, tu remballes rapidement, puis tu vas à ton
genre. T'es pas dans un hôpital, là. Ils vont pas te rançonner non plus.
Là où je te suis, c'est qu'on pourrait peut-être avoir un tarif belvédère, mettons.
Ben, moi, je trouve que le tarif de stationnement était décourageant. Il m'a empêché plusieurs fois d'aller montrer les chutes de loin parce que j'avais quoi, 1 15 minutes. Mm-hmm. 1 15 minutes, une demi-heure, là. Je paierais pas 12,50 de stationnement, c'est pas vrai.
Ouais.
Bon. Donc, qui module le stationnement selon la durée où tu es là. Pas de problème. Mais, qu'il laisse l'accès gratuit. Parce que c'est notre richesse naturelle que vous nous rendez accessible. Hey, 8 $, c'est cher. Sais-tu combien ça coûte d'aller voir un des parcs nationaux les plus magnifiques des États-Unis, Arches?
Non.
C'est 15 $ pour entrer. 15 $ par voiture et c'est bon pour plusieurs jours.
OK, donc tu peux arriver avec une minivan, ça coûte 15 $.
Jusqu'à 15 personnes.
OK.
Donc tu es 5 dans la voiture ou tu es 4 dans la voiture, tu payes 15 $, puis... Si mes souvenirs sont bons, c'est même plus que 48 heures.
Mm-hmm.
OK? Et donc, tu as un accès facile. Puis en plus, ils réduisent de cette façon-là la quantité de gens, la quantité de voitures qui rentrent dans le parc parce qu'on essaye de rentrer plus de personnes possible dans une voiture.
C'est ça, on n'a plus besoin de mettre quelqu'un dans le coffre comme au ciné-parc. Tu peux le mettre dans l'auto puis ça compte, t'es dans ton 15 $.
Et c'est bon pour plusieurs jours. Donc, ils incitent les gens à rester, à générer de l'économie dans le village voisin qui s'appelle Moab, qui est un beau petit village qui autrefois était un village un peu fantôme.
Oui.
La mentalité avec laquelle ils rendent l'accès facile pour les gens pour le public, là, c'est moi, j'ai préservé une richesse naturelle. Je veux que tu puisses y accéder.
Ouais.
À 8 $ pour aller marcher des escaliers, là, il y a toujours ben un bout.
Mm-hmm. Moi, je trouve que on a trouvé une espèce de compromis. Si tu y vas trois fois dans l'année, tu peux acheter ton abonnement annuel puis tu vas le rentabiliser. À 12,50, c'est pas si cher que ça, on s'entend, là. Puis t'as aussi un forfait familial qui coûte 12,50 parce que c'était une des inquiétudes des gens hier. Moi, je prenais le parc de la Jacques-Cartier comme référence. On n'avait pas encore de prix. C'est quoi, 8,25, je pense que ça coûte par personne. J'avais pas les tarifs enfants. Là, moi, j'y allais la semaine dernière. Donc, les gens disaient, OK, 8$ fois... moi, mon chum, les deux enfants, on arrive à 30$ pour aller prendre une marche aux chutes, ça n'a pas de sens. Ouais. Ben là, on a gardé ça à 12,50.
Mais 12,50, c'est pas donné pour quelque chose qui est une richesse naturelle qu'on a protégée et qu'on veut rendre accessible. Moi, là, je suis scandalisé des tarifs de la CEPAC. D'habitude, je prends ma carte annuelle. Mm-hmm. Fait que là,
je pense qu'on est autour de 80 à peu près.
Grosso modo, si tu y vois 10 fois, tu rentres dans ton argent. Mais 8,5 piastres pour aller prendre une marche dans un parc qui t'appartient, il y a toujours ben un bout.
Ben, c'est le principe de l'utilisateur payeur, non?
Pour 8,5 piastres par personne, j'ai accès aux plus beaux parcs nationaux américains. Pour rentrer dans le Grand Canyon, là, un laissez-passer de 7 jours pour une voiture, peu importe le nombre de gens que t'as dans ta voiture, c'est 25 piastres. On parle du Grand Canyon du Colorado, là. Mm-hmm. On parle pas du marché Léperon.
Mais pour financer le même niveau de service, la même qualité de sentier, le patrouillage et tout, faut aller chercher l'argent ailleurs. Aux États-Unis, ils ont décidé d'utiliser l'argent du Trésor public pour financer, puis ils demandent moins à l'entrée. Nous, on a fait un choix différent,
qui est de charger
un peu plus par tête.
Eux autres, ils calculent que tout ce que tu génères comme économie alentour rapporte à l'État. Autrement dit, si le coût d'entrée, par exemple, dans un parc, fait en sorte que je vais rester dans ce coin-là une journée de plus parce que mon billet d'entrée est bon pour 2 jours, la nuit d'hôtel, puis les taxes que je vais payer sur ma nuit d'hôtel, le restaurant, puis les taxes que je vais payer sur le restaurant, ils comptent dans la rentabilité du parc. Tandis que nous autres, là, utilisateurs-payeurs, faut que... Puis, tu sais, c'est fait par la fonction publique, donc ça coûte plus cher. Faire un escalier, ça coûte plus cher que si tu le gossais dans ton salon.
Mm-hmm. On nous donne un exemple. Nous aimions prendre la piste de vélo à partir du Mézeray, se rendre aux chutes.
Oui.
On va passer tout droit à l'avenir. Ils arrêteront pas avec leur 6,25 ou ils vont prendre leur abonnement annuel qui est le coût d'un stationnement. Ça, je trouve que c'est une mesure pour faire un compromis qui est quand même acceptable. Avant, il fallait que tu payes ton 12,50 anyway. Là, si t'arrives seul ou en couple, ben OK, ça va te coûter 25$, mais tu y vas 3 fois dans l'année puis t'as rentabilisé ta patente.
C'est ça. Mais c'est vrai que moi, je suis allé quelques fois en vélo là au parc. Puis c'était agréable. Là, tu arrivais là, tu déposes ton vélo, tu ressors tes chou-claques, tu fais une petite balade. Tu le fais pas si tu dois payer 6,25$.
Ah oui, tu y penses. Pour 20 minutes, ça t'en vient cher la minute.
Je te dis, la solution, à mon avis, c'était de moduler le coût de stationnement de façon beaucoup plus souple. Pas de faire payer le monde pour accéder au parc.
Si vous souhaitez y aller en fin de semaine, sachez que c'est encore la vieille formule de tarification. Vous allez payer le stationnement seulement et cette nouvelle tarification-là va entrer en vigueur le 12 juin. La pétition est toujours en ligne sur change.org. On est à peu près 4800 signatures.
Il est 11h19 minutes. On peut... Faut qu'on reste en onde.
Ah, faut qu'on reste en onde.
Faut qu'on reste en onde parce qu'on n'est pas capable de faire partir les publicités.
Hey, on va faire les pubs à Nitaine. On va les jouer. On va aller chercher des textes dans le bureau de François, puis on va les jouer. On pourrait faire ça. Benjamin, tu vas t'occuper de la musique.
OK.
Boum, 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 boum. Vas-y.
On voulait parler de Jonathan Falardeau-Laroche, le procès qui est toujours en cours. Myriam, hier, on a encore eu des informations de son neurologue, Michel Sylvain, c'est ça?
Oui. Et il y avait une dame qui m'avait écrit il y a quelque temps par texto. Quelqu'un qui m'avait écrit, comment ça se fait que le médecin a pas demandé que le permis de conduire de Jonathan Falardeau-Laroche soit suspendu? Normalement, c'est ça qu'on fait, on le demande à la SAQ. Mm-hmm. Le médecin, moi c'est arrivé dans mon entourage qu'un jeune ait eu un épisode de convulsion.
Okay.
Et le médecin, par défaut, il a écrit à la SAQ. Puis il a dit, ce jeune-là peut pas conduire tant qu'on l'aura pas réévalué.
OK, ça devient une dénonciation.
Et le jeune, il a reçu par la poste une interdiction de conduire et une suspension de permis de conduire par la SAQ. Mm-hmm. La SAQ, pardon.
OK.
Et donc, la question de la dame était légitime. Comment ça se fait que le médecin a pas envoyé quelque chose à la SAQ pour dire, hey, le jeune, il peut pas conduire.
Est-ce qu'il est tenu de le faire ou c'est à sa discrétion?
T'as une responsabilité de protéger le public.
Je comprends.
Cependant, ce que je comprends aussi, c'est que le jeune, il travaille dans un garage. Donc, sortir puis rentrer des chars du garage.
Ouais.
Peut-être que la conséquence pour le jeune était tellement énorme que le médecin a gardé, s'est gardé une petite gêne. Et quand la dame m'avait écrit, j'en avais pas trop parlé parce que faut laisser le process faire. Mais là, en contre-interrogatoire, effectivement, la défense lui a posé la question et il a reconnu qu'il ne l'a pas fait.
Ouais. Puis le doc Sylvain a un lien avec Jonathan Falardeau-Laroche depuis qu'il a 9 ans. Il y a une relation quand même. Est-ce que tu vas dénoncer le jeune que tu traites? Tu vas l'empêcher de faire son travail? Lui a jugé qu'il avait été suffisamment insistant lors de son intervention auprès de lui pour dire « j'ai pas besoin de le dénoncer à la SAC ». Puis dans les minutes qui ont suivi, est arrivé l'incident sur le boulevard Laurier.
Oui, mais il y avait eu d'autres épisodes avant aussi où il aurait pu demander la suspension à la SAC. Et là, le problème, c'est que les notes du médecin sont tellement pas développées, puis il les a pris après l'accident, qu'au bout du compte, c'est la parole du médecin contre ce que va prétendre Jonathan Falardeau-Laroche. Ça risque de donner ça. Il est 11h21, on s'essaye-tu pour faire une pause?
Ségal, le midi, on revient.